Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la coopération entre l'ONU et l'Union Européenne au menu du Conseil de Sécurité. Toujours à New York, ouverture de la commission sur la condition de la femme. Et coup de projecteur sur la suite à Genève des travaux du Conseil des droits de l'homme. Dans le dossier, retour sur les attaques terroristes qui ont endeuillé le Mali. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Fréquence Santé. On commence donc avec le débat qu'a consacré ce matin le Conseil de sécurité à la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales, et notamment avec l'Union européenne, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Avant que n'intervienne Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les 15 ont entendu le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui, dans le contexte international, a jugé incontournable une telle coopération.
Les défis sont trop complexes pour qu'une seule organisation ou une seule nation puisse les relever seule. D'où la nécessité des partenariats et de l'innovation. Le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'ONU est profondément ancré. Nos organisations partagent les mêmes valeurs et tiennent toutes deux à ce que les problèmes de sécurité soient gérés collectivement et pacifiquement pour qu'il n'y ait pas de conflit. En ce temps de crise multiple, il est plus nécessaire que jamais de renforcer ce partenariat pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Et il est plus nécessaire que jamais que l'Europe surmonte les frictions et difficultés internes qu'elle rencontre pour rester efficace dans les missions importantes qu'elle mène au-delà de ses frontières.
Le Conseil des droits de l'homme poursuit à Genève ses travaux avec l'examen du rapport de l'expert indépendant sur les effets de la dette extérieure. Juan Pablo Bohoslavski est revenu sur les résultats de son étude sur les effets néfastes des flux financiers illicites sur la jouissance des droits de l'homme. Il a insisté sur la diligence nécessaire et la coopération pour lutter contre ce phénomène pour rendre ses fonds au pays. Car ce sont 991 milliards de dollars qui ont été perdus en 2012 pour les pays en développement. Alpha Diallo.
En dépit des annulations de dettes, de nombreux pays en développement n'atteindront pas les objectifs du millénaire pour le développement devant le Conseil des droits de l'homme ce lundi à Genève. L'expert indépendant sur les effets de la dette extérieure s'est inquiété de la persistance de la crise de la dette qui n'est pas encore terminée. Juan Pablo Bohoslavski rappelle que dans le groupe des pays à bas revenus, ceux sont fortement endettés ou sont sur le chemin du surendettement. L'expert indépendant est également revenu sur les différents opposants NML Capital et le gouvernement argentin devant les tribunaux new-yorkais. Il a insisté sur ce précédent qui fait craindre les difficultés à négocier à l'avenir des restructurations de la dette. Dans ce contexte, Juan Pablo Bohoslavski s'est félicité de la résolution adoptée en septembre dernier par le Conseil sur les fonds vautours et de la création par l'Assemblée générale d'un comité ad hoc chargé de négocier un cadre conventionnel multilatéral pour la restructuration de la dette. Par ailleurs, l'expert indépendant a ensuite rendu compte de sa visite en Islande qui a connu une grave crise financière en 2008. Selon lui, ce pays a mieux géré cette crise en protégeant les droits des plus vulnérables. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Le Conseil des droits de l'homme qui a aussi examiné le rapport de l'expert indépendant John Knox, chargé des obligations relatives aux moyens de bénéficier d'un environnement sûr, propre, sain et durable. L'occasion pour les délégations d'insister sur les conséquences de la dégradation de l'environnement, à l'instar du représentant de l'Algérie qui s'est exprimé au nom du groupe africain.
Ces conséquences adverses de l'environnement sur la jouissance des droits de l'homme en Afrique sont aggravées par une double vulnérabilité. La première vulnérabilité se présente sous forme de dépendance excessive de nos pays à l'égard de l'agriculture vivrière et de la faiblesse parfois de l'absence de systèmes d'alerte précoce, de gestion de risque et des mécanismes de compensation des pertes. La deuxième vulnérabilité, plus visible encore et plus tragique, se constate plus particulièrement au sein de certains groupes fragiles comme les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Même si l'impact négatif de la dégradation de l'environnement sur la promotion et la protection des droits de l'homme est une réalité bien établie dans les débats internationaux, il reste que cette problématique n'est pas suffisamment prise en charge dans le cadre des processus décisionnels des États et des instances internationales.
Ban Ki-moon a donné ce matin à New York le coup d'envoi de la session annuelle de la Commission sur le statut de la femme, session qui marque le 20e anniversaire de l'adoption de la Déclaration de Beijing, un document politique phare pour l'égalité entre les sexes. Parmi les nombreux orateurs, Pascale Boitard, la secrétaire d'État française chargée des droits des femmes, elle a mis l'accent sur les manquements au sein même de l'organisation.
Dans notre propre maison des Nations Unies, les défis restent immenses. Seulement 19% de toutes les têtes d'opération de maintien de la paix sont des femmes et seulement seulement 25% des femmes occupent des positions de responsabilité, alors que plus de 95% du personnel pour le maintien de la paix sont des hommes. L'abus et l'exploitation sexuelle ne doivent jamais être tolérés au sein du système des Nations Unies. Si beaucoup de progrès ont été réalisés pour prévenir et mettre fin à de tels actes, nous ne devons pas ralentir nos efforts ou faire baisser notre vigilance. Nous devons rester mobilisés pour dénoncer, surveiller et enquêter sur de tels actes pour faire des Nations Unies une zone sans abus, sur le terrain comme au quartier général.
Et puis retour sur la célébration de la Journée internationale de la femme dimanche en République démocratique du Congo. Les femmes qui ont organisé un marathon à Kinshasa avec le soutien de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, et de son chef Martin Kobler. On écoute la correspondance de Radio Okapi.
C'est dans une ambiance festive qu'une centaine de femmes dansent et chantent. Martin Kobler leur livre trois messages.
Vous êtes l'espoir de la paix, de la prospérité et de la stabilité au Congo. Troisième message, c'est la confiance, l'émancipation, l'autonomisation des femmes, la participation politique, ça se fait avec les hommes, pas contre les hommes. Il faut avoir aussi la coopération avec ceux qui sont en pouvoir et les encourager de vous laisser les participer dans la vie politique ici.
Message bien capté par les destinataires.
C'est un message nécessaire pour notre pays, sauf que moi, je ne m'intéresse pas à la politique, mais nous observons le politicien des loin. La femme est là pour apporter la paix, mais qui doit être accompagnée par l'homme.
Selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, il y a 365 jours de femmes. Il ne faut pas se limiter au 8 mars.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité. Au lendemain d'un week-end particulièrement violent au Mali, la vie reprend son cours malgré tout dans le pays. La MINUSMA, dont le siège à Kidal a été la cible d'une attaque, se remet au travail mais fait preuve de plus en plus de précautions dorénavant, comme l'indique Radia Achouri, porte-parole de la mission. Nous l'écoutons au micro de Tsige Chiferao, qui lui a d'abord demandé quelle était l'atmosphère au siège de la mission de maintien de la paix au Mali lundi suite aux attaques.
On continue à faire notre travail avec le même engagement, avec la même détermination. Cela étant dit, la mission a pris tout ce qu'il faut prendre en tant que mesure sécuritaire, en encourageant son personnel à faire preuve de vigilance, particulièrement à Bamako, de renforcer nos mesures et arrangements sécuritaires à Bamako et ailleurs, partout où la MINUSMA est déployée. À Kidal, bien entendu, on est en train de suivre la situation de très près là-bas, mais on continue à travailler avec la même détermination et bien entendu, la priorité étant de sécuriser le personnel des Nations Unies.
Et à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan exact du nombre de blessés et du nombre de personnes qui ont perdu la vie ?
Ce qui s'est passé, l'attentat terroriste à Bamako du samedi, nous avons deux membres du personnel des services des Nations Unies de lutte contre les mines qui ont été blessés, qui ont été déjà évacués le jour même sur l'hôpital de Dakar, qui fournit des services médicaux pour le personnel de la MINUSMA, donc ça a été déjà fait. Pour ce qui est de Kidal, bien entendu, nous avons malheureusement subi une perte de vie, un de nos soldats a perdu la vie, et nous avons le compte de nos blessés à ce jour. L'initial c'était 8 blessés, aujourd'hui le bilan définitif c'est 11. Tous nos blessés ont été évacués pour avoir des soins médicaux dans nos autres hôpitaux dans la région du Nord. Tout ça, ça a été fait également hier. Et même pour la population civile qui a été affectée dans le cadre de l'attaque d'hier, la MINUSMA a également octroyé son aide en termes d'évacuation des blessés et de leur fournir des soins médicaux dans nos facilités médicales à Kidal.
Et donc, quel est le bilan côté civil ?
Bilan côté civil, jusqu'à maintenant, on est toujours au préliminaire. J'attends toujours une confirmation définitive, mais on avait parlé de deux morts du côté de la population civile et de deux blessés.
D'accord.
Et... trois blessés civils et deux personnes mortes.
Vous avez eu une revendication des attaques, que ce soit à Bamako, à Kidal. Est-ce que ce sont les mêmes revendications ?
Écoutez, je crois que tout le monde a eu l'information qui a circulé dans les médias selon laquelle un groupe particulier a revendiqué l'opération à Bamako. Bien entendu, on prend note de cette revendication, mais comme vous pouvez en convenir, la MINUSMA n'est pas en mesure de confirmer l'authenticité ou pas. De toutes les façons, ce qui importe pour nous, ça a été considéré par tout le monde, y compris les autorités maliennes et d'autres qui s'étaient prononcées sur la chose, notamment et en particulier le Conseil de sécurité en tant qu'action terroriste. Pour Kidal, non, il n'y a pas eu de revendication à ce jour. Mais de toutes les façons, qu'il y ait revendication ou pas, nous savons tous que c'est le fait de groupes terroristes qui s'active pour essayer de maintenir l'insécurité et l'instabilité et la violence et même l'intimidation de tout acteur, ils essaient en tout cas, tout acteur qui est là pour aider les Maliens à sortir de la crise. Nous sommes conscients de la menace terroriste qu'elle existe.
Fréquence santé.
L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vient de lancer un projet de 2,7 millions de dollars pour améliorer les capacités nationales des pays d'Afrique à procéder à des détections précoces des maladies zoonotiques, dont une des manifestations les plus dramatiques est l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Pour en savoir plus, Isabelle Dupuis a joint Michel Warneau. Il est chef de section au département de la coopération technique de l'AIEA.
Nous venons de lancer un projet régional qui vise à renforcer les capacités nationales et régionales en Afrique pour l'évaluation ou l'anticipation du risque de transmission de maladies zoonotiques vers la population humaine en développant des systèmes de détection rapide dans le milieu animal, puisque ces maladies sont des maladies animales qui sont transmissibles à l'homme. Ce que l'on développe, c'est les techniques de détection de ces maladies au sein de l'animal, les animaux sauvages et le bétail, de façon à pouvoir anticiper le plus possible les risques d'épidémie au sein de la population humaine.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces systèmes de détection et comment est-ce qu'on utilise la technologie nucléaire dans ce contexte ?
Les techniques qui sont actuellement, disons, les plus rapides et efficaces sont des techniques dérivées de techniques nucléaires. Donc c'est une technique en fait qui permet d'amplifier le matériel génétique d'un pathogène. En général, dans un échantillon, il y a très peu de matériel génétique d'un virus, par exemple. Cet équipement permet de l'amplifier, d'obtenir des millions de copies, voire des milliards de copies de ce gène, par exemple, que l'on peut ensuite détecter relativement facilement. Donc ce sont des techniques de diagnostic, d'identification de maladies particulières que l'on utilise de façon très généralisée dans le milieu et médical et vétérinaire. Et ce sont ces techniques-là, celles-là et d'autres qui sont liées, que nous comptons développer encore davantage.
Pour la région de l'Afrique, est-ce que l'AIEA va faire des donations matérielles ou fournir des fonds pour aider les pays à s'en procurer, parce qu'on imagine que ces équipements coûtent cher.
Dans le cadre de notre programme de coopération technique, qui est un programme qui est très important au sein de l'AIEA, typiquement, nous fournissons des formations, donc nous formons les gens à certaines techniques, dont celle-là, par exemple, et nous fournissons aussi certains équipements. Donc ce sont des projets d'augmentation des capacités de la région. Alors il faut savoir que ce sont des activités qui sont déjà en cours, pas nécessairement dans le cadre de maladies comme Ebola ou d'autres fièvres hémorragiques aussi dangereuses, mais que nous faisons classiquement dans le cadre de l'étude des maladies animales, des maladies transfrontalières, éventuellement d'autres maladies zoonotiques. Donc nous allons construire sur le soutien qui a déjà été apporté dans la région et améliorer le système, en particulier parce que ce genre de maladie, ce genre de fièvre hémorragique très dangereuse nécessite un environnement de travail qui soit hautement sécurisé. C'est dans ce sens-là que nous allons aller améliorer les soutiens qui ont déjà été apportés et également, chose très importante, travailler sur le réseau d'information et la communication entre les techniciens qui travaillent à détecter, à identifier les maladies et les décideurs qui sont évidemment les personnes qui vont prendre les décisions et éventuellement développer des mesures pour protéger les populations.
Y a-t-il une relative urgence à établir de tels systèmes ? Y a-t-il par exemple une hausse de ces maladies zoonotiques récemment ?
On est toujours exposé en Afrique de l'Ouest à cette épidémie d'Ebola qui n'a jamais été rencontrée, en tout cas à une échelle comme celle-là, qui a pu effectivement se propager à cause du manque de préparation de la sur-région à ce type de maladie. Ce cas-là est un cas vraiment majeur. Il faut savoir également que les statistiques montrent que durant les 10 dernières années, la plus grande partie, 75% des maladies émergentes ou réémergentes ont un caractère zoonotique, donc elles sont liées à l'animal d'une façon ou d'une autre. Et en sachant que les populations humaines s'accroissent, entrent de plus en plus en contact avec des environnements qui étaient sauvages, inconnus, il y a quelques années ou quelques décennies, on peut s'attendre à davantage de risques que l'homme rencontre des maladies animales auxquelles il n'était pas habitué, et donc qui pourraient éventuellement menacer les populations humaines.
Voilà, et c'est avec Fréquence Santé que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.